l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous et tous mes vœux de bonne année, puisque je reprends les émissions aujourd'hui et que vous avez eu le plaisir d'entendre Marie-Claude Quézac à ma place lundi dernier. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de José Forneron. José, qui est le coordinateur tous les ans de cette quinzaine tiers-monde, qui est un des objectifs principaux, évidemment, de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale, cette maison qui vient de fêter ses 30 ans, justement, dans
voilà,
l'année.
Oui, on a... Bonjour à tout le monde. Nous avons fêté cette année, en 2019, les 30 ans de la Maison des Tiers-Mondes. C'était une belle occasion de dire ce que nous avions fait. Et donc, on a eu, au mois de mai, on a eu une belle journée avec un temps fort et musical à la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela. Ce même jour, il y avait une course particulière et qui correspond tout à fait à l'air du temps, c'est-à-dire c'était une course qu'on appelle un plogging, qui consiste à courir et à ramasser les détritus qu'on trouve sur son chemin, et les quelques participants nous ont ramené plusieurs sacs d'ordures qu'ils avaient trouvés le long du Lez à Montpellier. Et puis ensuite, on a eu une belle soirée aussi avec des lâchers de ballons à Richter. Donc ça a été vraiment une belle journée, une belle soirée, et qui a rappelé tout ce que nous avions fait, où on a eu l'occasion de retrouver les anciens et les nouveaux qui font tourner la maison.
Et aussi, je pense, il y a eu un concert pour
voilà,
marquer.
Voilà, alors il y a eu un concert qui a été voilà pour terminer un petit peu l'année au moment de la quinzaine des solidarités internationales. Le club de jazz nous a permis d'avoir un concert. Donc le JAM nous a permis d'avoir un concert autour d'un groupe qui reprenait des musiques d'un jazziste célèbre aux États-Unis qui s'appelle, je retrouve plus son nom.
Et puis non seulement cela, mais il y a eu aussi une action de solidarité concrète lancée par la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité
voilà,
Internationale.
Ça a été là aussi une occasion liée un petit peu à la musique, puisque nous avions reçu lors d'une journée qu'on appelle Chapeau les bénévoles, nous avions reçu des musiciens qui venaient d'Afrique et qui nous ont suggéré peut-être de leur donner un coup de main pour construire des puits. Et donc, il y a eu cette action qui a été un appel à la solidarité qui s'est traduit par des versements.
Des puits au Mali.
Voilà, des puits au Mali.
Or, il faut signaler que c'est très difficile moment.
C'est une région où on ne peut plus aller. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle les associations internationales ne s'y rendent plus. Et on a donc pu obtenir des sommes qui ont permis de construire des puits.
Qui sont
maintenant et des puits solides, donc qui vont résister au temps, et c'est donc une action qu'on a pu mener dans ce sens-là.
Donc des 30 ans bien positifs.
Des 30 ans bien positifs, parce que bon, c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi pas fêter les 31 ans ou les 29 ans, mais il y a quelque chose de symbolique, c'est en général la maturité des gens, et pourquoi pas la maturité d'une association, d'un collectif comme le nôtre.
Donc, cela c'est pour prolonger évidemment tout au début de l'année par la journée de réflexion.
Alors,
qui
oui.
est habituel.
Alors, chaque année, au mois de janvier, on a un temps de réflexion dans lequel on fait le bilan de ce que nous avons fait, et puis on trace les perspectives, les grandes lignes de l'année, avec ce que de l'année qui commence et avec ce qu'on pourra faire. Alors, dans ce cadre-là, nous étions samedi dernier réunis à la Maison des Tiers-Mondes, et nous avons échangé un petit peu. Donc il est apparu un certain nombre de choses intéressantes, à savoir que On avait donc face à nous à voir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et très très vite, on est arrivé à l'idée que, par exemple, notre collectif s'était un petit peu au fil du temps amenuisé, puisque nous étions, il y a quelques années, plutôt autour de 40 associations. Nous sommes plutôt autour de 30. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi nous avons un petit peu moins de monde. Et ce qui s'est retrouvé aussi dans ce qu'on évoquera peut-être aussi, la quinzaine des solidarités, avec un petit peu moins d'intérêt qui est porté à ce que nous faisons. Alors, ça ne veut pas dire que ce que nous faisons n'est pas, je dirais, ne correspond pas à ce qui est attendu, mais on a réfléchi là-dessus, et la question qui s'est posée, est-ce que dans une période où les difficultés financières sont un petit peu là, que les associations n'ont pas toujours les subventions qu'elles veulent, est-ce qu'il ne conviendrait pas de réfléchir au montant de la cotisation qui est demandée aux associations ou aux personnes qui font partie du collectif. Voilà, ça a été un petit peu ça. Et puis ensuite, il y a eu des ateliers qui ont été proposés aux différentes personnes qui étaient là. Et donc, quelque chose pour justement agir, pour mutualiser nos ressources et nos compétences, puisque 30 associations, c'est pas rien. On a tous des chemins différents, des façons de procéder différentes. Et donc tout ça nous a paru intéressant. Par ailleurs, on a des bonnes volontés qui sont quelquefois un petit peu oubliées. Donc l'idée, c'est de remobiliser un petit peu les uns et les autres pour que notre organisation soit plus efficiente. Et puis, toujours dans ce même esprit, il y avait un atelier qui était consacré à la quinzaine des tiers-monde, enfin des solidarités internationales, comme on la nomme maintenant, pour voir comment on pouvait peut-être essayer de lui donner peut-être d'autres horizons, parce que l'habitude qui est souvent la nôtre, c'est conférences et débats, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de s'exprimer, de faire passer les choses? Cette année, par exemple, il y a eu, la dernière édition, il y a eu beaucoup de films avec des débats où il y a eu du monde. Ça veut dire que c'est peut-être plus attirant qu'une conférencière ou un conférencier.
Oui, on a essayé aussi la conférence gesticulée.
On avait conseillé. Alors, cette conférence gesticulée qu'on avait essayée, il n'y avait pas eu un public très 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 nombreux, mais en même temps, c'était un jour où il faisait pas beau, c'était un jour où il y avait les illuminations de la ville. Donc, on se pose toujours des questions, d'essayer de trouver pour quel motif y a-t-il plus ou moins de monde. Ça, bon, on n'a pas encore trouvé la solution, mais on désespère pas, on avance toujours.
Bon, alors vous avez apporté une musique, de quoi s'agit-il?
Voilà, mais c'est tout simplement une musique que j'aime bien, qui est une musique qui est chantée par Césaria Ivora, qui est une habitante du Cap-Vert, qui a disparu il y a quelques années, qui s'appelle Saudade, qui est un morceau qui traduit un petit peu le feeling un petit peu des habitants de ces îles.
Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava Soda, 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 this my terra, sunny cloud. Soda.
Alors, je rappelle que je suis avec José Fornero et que nous parlons des objectifs, bien sûr, de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale et de la façon de la présenter au public. Nous avons parlé de la quinzaine des Solidarités Internationales et maintenant, il y a aussi d'autres manières d'intervenir qui ont déjà été tentées. Puisque on propose au lycée, au collège.
Oui, aussi. Alors c'est un petit peu dans la logique de ce que nous disions il y a quelques instants, c'est-à-dire que un petit peu redonner un autre souffle à notre collectif, c'est justement d'aller vers des publics plus jeunes et avec des manifestations un petit peu différentes. Alors là, on a deux façons de procéder pour se tourner vers les jeunes. Nous sommes dans une ville universitaire et donc il y a des contacts qui sont pris avec les différentes associations. Et dans cet esprit-là, nous avons depuis quelques mois un service civique qui a un petit peu cette tâche-là de garder le contact avec les plus jeunes et avec les universités. Et nous avons également des contacts avec les établissements scolaires, c'est-à-dire que il nous est parfois demandé d'intervenir dans des collèges. Par exemple, on a un collège à Pignan qui nous a demandé il y a plusieurs années et puis qui va nous a sollicité pour cette année sur la façon d'aborder tout ce qui est alimentation et tout ce qui est gaspillage. Et donc on rencontre des élèves de classe de 5e avec lesquels on échange pas mal sur la difficulté pour les pays du Sud de se nourrir. Et puis alors que chez nous, on est plutôt à se demander comment on peut faire pour éviter tout ce gaspillage. Donc dans cet esprit-là, on procède auprès des jeunes collégiens, mais également, et ça s'est passé depuis 2 ans maintenant, avec un lycée professionnel et un lycée qui est à la fois professionnel et général, dans lesquels on rencontre des jeunes en formation, quelquefois même en formation très avancée, parce que soit ils sont en BTS, soit ils sont encore lycéens, et là on échange un petit peu sur toutes les questions qui traversent notre réflexion de solidarité internationale, à savoir la question de l'accaparement des terres, la question des semences, etc. Et ce public est tout à fait intéressé, donc on se dit que peut-être en parlant maintenant, plus tard dans leur vie professionnelle, dans leur vie d'adulte, ils auront des comportements un petit peu plus tournés vers les autres et surtout vers les pays du Sud.
Voilà, vous avez aussi chaque année des contacts avec le lycée Bonneterre.
Voilà, avec le lycée Bonneterre aussi. Alors ça, on s'éloigne un petit peu de Montpellier, mais le lycée Bonneterre est à côté de Pézenas. C'est un lycée agricole au départ, mais qui a également des formations dans le monde social. Et là, c'est l'occasion aussi, au moment de la quinzaine des solidarités internationales, d'avoir une sorte de foire aux associations, de gens qui sont chez nous ou des environs, qui viennent présenter aux jeunes ce qu'ils font pour là aussi les mobiliser. Donc ça nous paraît intéressant de garder le contact avec ces jeunes, parce que dans leur vie professionnelle, ils seront peut-être amenés à se dire « mais tiens, on a entendu ça et mettons-le en application ».
Alors, dans cet ordre d'idées aussi, le service civique que vous avez actuellement a pris des contacts pour mettre sur pied un escape game.
Alors oui, alors là, l'escape game, vous savez, quand on en parle souvent, les gens se froncent les sourcils en se disant « mais qu'est-ce que c'est ce truc-là ?» Ben c'est une activité qui plaît beaucoup aux jeunes générations. Il s'agit de mettre dans une pièce fermée des jeunes ou des moins jeunes, moi, il m'est arrivé d'y participer aussi dans ce genre de choses, avec une énigme à résoudre et pour lesquelles on donne des indices, etc. Et donc si au bout d'un temps un parti qui est de l'ordre d'une demi-heure. Une demi-heure. Si au bout du temps est parti, ben, toute l'équipe a perdu. Mais sinon, il y en a qui sont plus malins que les autres. Alors, il y a des indices qui sont dissimulés dans des textes, et des indices qui sont quelquefois retrouvés par Internet, quelquefois qui sont cachés dans la pièce où on est. Mais ce côté intéressant, c'est la solution de l'énigme, mais c'est en même temps la collaboration, puisque ce sont des équipes de, on va dire, une dizaine, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins selon les cas, mais chacun y met son grain de sel et chacun trouve un indice, et puis il y a des faux indices, il y a des vrais indices. Et tout ça pour faire toujours passer un message. Alors, le message qui a été choisi par l'équipe de jeunes qui est en train de monter ça, et ça devrait se passer au mois de mars. Cette équipe de jeunes travaille sur les objectifs du développement. Ces objectifs du développement qui ont
durable.
Été du développement durable, bien évidemment, oui, merci de préciser. Voilà, les ODD, ce qu'on appelle les ODD, et ces objectifs du développement durable
qui ont été fixés en 2015 par l'ONU.
Par l'ONU, oui.
Et pour être atteint en 2030.
Oui, alors là, c'est peut-être moins sûr, mais justement, pour les atteindre, peut-être qu'en sensibilisant les foules à ce genre de défis qui nous sont donnés, on peut arriver à disons, peut-être pas forcément à atteindre le but, mais au moins l'approcher le plus possible. Et donc ça c'est quelque chose sur lequel on compte pas mal, parce que c'est, comme on le disait tout à l'heure, les conférences, c'est pas forcément toujours la même attention. Donc essayons de trouver des formes nouvelles d'expression, mais tout en avec toujours le souci de faire passer un message sur celui de la solidarité internationale.
Alors c'est 17 objectifs, donc c'est pour en fait c'est destiné à les faire connaître par les jeunes.
Oui.
De 12 à 25 ans.
Alors c'est effectivement bon, c'est les générations qui vont être aux commandes dans quelques années, et c'est eux. Alors on reproche beaucoup aux actifs d'aujourd'hui de laisser des bombes à retardement, et c'est probablement en partie vrai, hein, pour les jeunes qui arrivent, mais au moins que eux aient cette envie, ce souci que ils ont quelque chose à faire pour pas forcément redresser complètement la barre, mais pour que les conséquences soient moins dures.
Alors depuis 2015 d'ailleurs, je pense que l'ordre de ces objectifs a peut-être un peu changé, puisque les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique ne figurent qu'en 13e position.
Oui, alors,
et actuellement je pense que c'est
mais
beaucoup
est-ce
plus
que, est-ce que
le souci.
L'ordre de présentation est un ordre d'urgence, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas c'est vrai que ces questions sur les conditions climatiques frappent beaucoup les jeunes, et qu'ils y sont attentifs, et que quelquefois, en tant que parents, en tant que grands-parents, on est interpellé par des jeunes en disant « mais il ne faut pas faire ça, c'est pas ci, c'est pas là ». Et donc, on s'aperçoit que tous nos actes sont véritablement empreints d'une empreinte écologique. Je lisais récemment que lorsque nous stockons des messages sur Internet, etc., on se dédouane en se disant mais on n'use pas de papier, mais ça use aussi beaucoup d'énergie. Donc il faut absolument avoir un œil acéré et critique sur ce que nous faisons, parce que on n'est pas forcément au mieux des procédures à suivre.
Alors c'est ce qui sera, je pense, encore le sujet de la prochaine quinzaine des solidarités internationales.
Oui, alors il semblerait que on n'a pas véritablement encore déterminé le sujet de la future QSI, mais on le fera au mois de mars lors de l'AG, mais il semble se dégager quelque chose sur cette question un petit peu de la transition, hein, qui est à la fois dans l'esprit des gens qui nous en ont parlé, une transition d'ordre écologique, hein, et être attentif au changement climatique, mais une transition aussi informatique, parce que tout ce qui nous provient, tout ce qui circule dans le monde comme information maintenant est essentiellement informatique. Et on pense à l'éducation dans des pays du Sud, quelquefois inaccessibles, mais qui, avec les techniques de communication modernes, peuvent avoir, via des tablettes qu'on pourrait leur envoyer, ou des ordinateurs, ou des téléphones portables qui sont de plus en plus répandus dans le monde, une façon d'irriguer un petit peu la connaissance et de faire partager cette connaissance.
Oui, et puis on parle beaucoup de l'intelligence artificielle aussi.
Voilà, intelligence. Alors, l'homme augmenté, l'homme... Mais est-ce que... La question se pose toujours, il faut avoir un œil critique là-dessus, c'est que cet homme augmenté, est-ce qu'il est augmenté dans le bon sens quelquefois? Est-ce qu'on on risque pas de perdre un petit peu de notre, je dirais, de notre personnalité en étant guidé par des machines? Et en même temps, ce sont des progrès extraordinaires. Donc, ce qu'il faut, je crois, c'est avoir ce qui manque peut-être à nos société, c'est un regard critique et un regard acéré sur les choses et ne pas accepter, gober tout au prétexte que c'est moderne, que ça fait avancer les choses. Quelquefois, ça les fait reculer aussi.
Alors, vous avez apporté une autre musique. De quoi s'agit-il?
Alors, l'autre musique que j'ai apportée, c'est un air d'opéra. Parce que c'est un air qui est extrait de l'opéra Turandot et qui s'appelle Nessun Dorma. Ça veut dire en italien, Madeleine qui fait de l'italien, Dieu veut savoir, il ne faut pas dormir. Et donc, dans l'esprit qui est celui de cette discussion, c'est de se dire... on a tant de problèmes à résoudre, ne dormons pas. Alors même si les paroles après sont pas tout à fait dans cette... Mais je crois que c'est le titre qui m'a plu.
Alors, écoutons. Alors, après cet air d'opéra qui nous réveille, effectivement, José Forneron, vous faites partie aussi du centre du CCFD Terre Solidaire. Peut-être avez-vous aussi des annonces à nous faire?
Ben oui, comme chaque année, au printemps, nous allons recevoir un ou une partenaire, on ne sait pas encore, qui doit venir un petit peu nous éclairer sur ce que fait leur association et sur le thème qui est celui qu'a retenu le CCFD pour cette réflexion au mois de mars sur autosuffisance et agroécologie. Donc autosuffisance et agroécologie, ça laisse entendre que il y a des choses à résoudre justement sur le plan alimentaire et que la question qui se pose, c'est est-ce que la production alimentaire n'est pas gênée par le climat et s'il ne faut pas aller du côté de l'agroécologie, c'est-à-dire essayer de mélanger à la fois la production et la possibilité de réaliser tout ça.
Oui. Alors, c'est certain, cette réflexion est menée déjà par beaucoup d'instituts.
Oui, oui. Alors, on ne peut pas vous le cacher, le CCFD Terre Solidaire, c'est une organisation catholique et qui s'inspire un petit peu d'une encyclique du pape qui s'appelle Laudato Si et qui met en avant le développement intégral de l'homme. Hein, c'est-à-dire, il faut mettre disons, ensemble tout ce qui concerne l'environnement humain. Et c'est dans ce cadre-là que ça nous paraît intéressant. Alors, personne qui viendra nous parler un petit peu de sa façon de voir, c'est une personne qui viendra de la Guinée-Conakry, donc, et qui est une organisation. Et dans cette Guinée-Conakry, il y a une partie, les hauts plateaux, qui s'appelle le Fouta Djallon. Et dans ce Fouta Djallon, qui est un peu le grenier, le château d'eau de ce pays, il y a des problèmes qui se posent parce que le changement climatique a fait plus ou moins se tarir certaines rivières, des lacs s'assécher. Et donc, il se pose la question de comment notre association du foot à Djallon va pouvoir à la fois faire face à son souhait de dire il faut produire pour nourrir nos paysans, mais aussi pour pouvoir en vendre, tout en tenant compte du climat. Alors, parmi les choses, et c'est assez amusant, parmi les choses que produisent ces paysans du foot à Djallon, il y a la pomme de terre, hein, la belle de Guinée. Alors, on n'a pas souvent le sentiment qu'en Afrique, on mange beaucoup de pommes de terre. On s'imagine peut-être que c'est des choses qu'on mange plutôt chez nous, en frites, etc. Et ils ont eu, disons, un petit peu des contacts avec des paysans d'Amérique du Sud, qui leur ont trouvé des variétés, puisque en Amérique du Sud, c'est un petit peu le pays de naissance de la pomme de terre. Ils ont trouvé des variétés qui pouvaient pousser avec beaucoup moins d'eau. Donc on voit un petit peu cette interaction entre les pays du Nord et les pays du Sud, et les pays du Sud entre eux. Et tout ça dans l'objectif de dire, c'est bien joli la mondialisation, mais il faut donner vie et cœur à ce que nous faisons. Et il faut bien savoir que cette faim dans le monde qui a tendance à s'accroître, elle est subie généralement le plus par les producteurs. Donc on se dit il y a quelque chose à faire dans ce sens-là.
Alors on en reparlera bien sûr puisque d'ici, oui. Votre partenaire va venir fin ici mars, en Languedoc-Roussillon.
Ouais.
Alors je passe tout de suite au calendrier. Eh bien, dès demain, c'est le Café Actualité du Centre Documentation Tiers-Monde qui se déroule à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc, à partir de midi jusqu'à 14h. Et ce que nous allons traiter cette fois-ci, c'est le Costa Rica entre idéal idéologique et politique de communication, un autre regard sur la réalité quotidienne costaricienne. Et pour cela, nous avons deux intervenants, Claude Léna et Simon Berdiel, alors qui sont co-auteurs tous deux de l'ouvrage « Voyage au cœur du Costa Rica ». Claude Léna est enseignant de sciences sociales. Il a travaillé au lycée franco-costaricien de San José entre 2015 et 2018. Et Simon Berdiel est géographe, spécialisé dans le développement du territoire et enseignant d'histoire-géographie au lycée franco-costaricien de San José aussi, depuis 2016. Donc tous les deux vont nous donner vraiment des renseignements sur l'histoire, la culture de cette population de 5 millions d'habitants, qui souvent est très vantée de manière touristique. Mais là, nous verrons quelle est l'enquête sociologique sur la réalité quotidienne. Et donc, ce sera vraiment un débat intéressant. Alors, demain, hein, dès 12h, à l'espace Martin Luther King. Et puis, Artisan du Monde fait des soldes dans sa boutique à partir de demain aussi, 14 janvier. Donc, à travers ces soldes, Artisan du Monde souhaite faire connaître les produits du commerce équitable, développer leurs ventes, renouveler ainsi les achats à leurs partenaires. Donc vous pouvez trouver à la boutique de la maroquinerie, des portefeuilles, des boîtes à triangles, des échiquiers, bien d'autres choses encore, et tous les produits habituels de l'alimentation. D'autant plus qu'actuellement, Artisan du Monde veut développer les circuits courts et équitables au Liban, et donc lance aussi une action de financement participatif qui fera aboutir bien sûr ces projets libanais. Je rappelle que la boutique est ouverte évidemment 6 rue Saint-Firmin à Montpellier. Et puis je passe au calendrier encore. Alors sur le plan du calendrier régional, eh bien il y a des invitations qui viennent de Occitanie Coopération, qui est un réseau régional multi-acteurs au service de toutes les structures engagées dans des projets de coopération décentralisée et ou de solidarité internationale, ce qui veut dire qu'on peut y rencontrer à la fois des collectivités territoriales, des associations et des entreprises. Donc, il vous invite le mardi 21 janvier à l'hôtel de région Salle Jean Jaurès à Montpellier, de 9h à 11h, à une réunion d'information sur des appels à projets coopération en Méditerranée, et qui touche le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Et le 28 janvier, de 14h à 16h30, à l'espace Cap de Ville, Salle Pyrénées, c'est une réunion d'information aussi sur l'appel à projet Aide au co-développement international. Je rappelle aussi que samedi 18 janvier va se dérouler en nocturne l'Urban Trail de Montpellier et que la participation à l'encadrement de cet Urban Trail est faite aussi avec Enfants du Mékong qui a fait appel à des bénévoles et qui seront nombreux donc à encadrer cet Urban Trail. À partir du lundi 20 janvier jusqu'au vendredi 14 février, vous pourrez visiter à l'hôtel de ville de Montpellier une exposition photographique « Peuples autochtones, ode à la nature » faite à partir des clichés et des écrits de Christian Puech de l'association « Témoins du bout du monde ». Le vernissage aura lieu le lundi 20 janvier à 18h. Et le 21 janvier à 18h, à l'amphi Philippe Lamour, sur le campus de la Gaillarde à Montpellier, aura lieu la conférence « Où sont passés les insectes ?» avec Stéphane Foucard, spécialiste des questions environnementales au journal Le Monde. C'est une conférence co-organisée avec l'INRA Montpellier Occitanie et la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Donc, il y aura certainement un stand de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale, ainsi que du Centre Documentation Tiers-Monde. Enfin, le collectif Alternativa vous invite mercredi 15 janvier à 18h à un rendez-vous pour décider ensemble des priorités d'action et former des groupes de travail. Il y aura un apéro partagé. Cela se passe donc mercredi 15 janvier de 18 à 21h à la salle Pause, 19 rue Saint-Claude à Montpellier. À bientôt, chers auditeurs.